Les Yvines. Volodia, Volodia, les Yvines ! M'écriai-je en apercevant de la fenêtre trois petits garçons vêtus de paletots bleus à collet de castor que suivait un jeune gouverneur dandy. Ils quittaient le trottoir d'en face et se dirigeaient vers notre maison. Nous étions parents avec les Yvines, qui étaient à peu près de notre âge. Peu après notre arrivée à Moscou, nous avions fait connaissance et nous nous étions mutuellement plus. Le second des Yvines, Serioja, avait le teint basané, les cheveux frisés, un petit nez relevé, des lèvres rouges et très fraîches, qui rarement couvraient la rangée supérieure de ses dents blanches et serrées. De beaux yeux d'un bleu sombre, l'air très déluré. Il ne souriait jamais et était tout à fait sérieux ou tout à fait hilar. Son rire, qu'il lançait à plein gosier, était railleur et communicatif. Dès le premier jour, sa beauté originale me fit une vive impression, et je ressentis tout de suite pour lui une sympathie irrésistible. Le voir seulement suffisait à mon bonheur, et, à une certaine époque, je me rappelle que toutes les forces de mon âme se concentraient dans ce seul désir. Quand il m'arrivait de ne pas le voir, pendant 3 ou 4 jours, je m'ennuyais, et j'étais triste à pleurer. Tous mes rêves, ce que me procurait le sommeil, comme ceux qui s'imposaient à mon esprit pendant le jour, avaient Serioja pour objet. En fermant les yeux, je le voyais devant moi, et je choyais ce fantôme avec délice. À personne au monde je n'eus confié ce sentiment, tant il m'était cher. Sans doute parce que je l'ennuyais avec mes yeux toujours fixés sur lui, ou parce qu'il n'avait aucune sympathie pour moi, il aimait visiblement mieux jouer avec Volodia que causer avec moi. J'étais content quand même. Je ne désirais et ne demandais rien. J'eusse été prêt à me sacrifier pour lui. Indépendamment de l'attraction passionnée que je subissais, sa présence m'inspirait un autre sentiment, non moins impérieux. C'était la peur de le contrarier, de le blesser en quelque chose, de lui déplaire. Sans doute à cause de l'air hautain de sa physionomie, ou bien à cause de mon modeste extérieur qui me faisait priser si haut la beauté chez autrui, ou bien, ce qui est plus vraisemblable encore, à cause de l'appréhension dont était mélangé l'attachement que j'avais pour lui, marque distinctive et invariable de l'amour, il m'inspirait autant de crainte que d'affection. Quand Serioja m'adressa la parole pour la première fois, je fus si frappée de ce bonheur inattendu que je rougis, pâlis, et ne pus rien lui répondre. Il avait la mauvaise habitude, quand il songeait à quelque chose, de fixer ses regards sur un point, et de clignoter sans cesse des yeux en remuant le nez et les sourcils. Tout le monde estimait que cette habitude lui gâtait le visage. Mais moi, je la trouvais si charmante que je me pris malgré moi à l'imiter. De sorte que quelques jours après que j'avais fait la connaissance avec Serioja, la babouchka me demanda, à me voir battre les paupières comme un hibou, si je n'avais pas mal aux yeux. Nous n'avions jamais échangé de paroles amicales, mais il sentait son influence sur moi. Il s'en servait inconsciemment, mais d'une manière tyrannique dans nos rapports d'enfants. Quant à moi, malgré tout mon désir de lui faire savoir ce que mon cœur renfermait d'affection pour lui, je le craignais trop pour que j'osasse me décider à le lui dire. Je tâchais de paraître indifférent, et je me soumettais sans protestation à ses fantaisies. Parfois, cette influence m'était pénible, mais je sentais que je ne pouvais m'y soustraire. Il m'est triste de me rappeler ce sentiment frais et pur d'un amour désintéressé, qui a disparu sans avoir éveillé le même sentiment chez celui qui en était l'objet. Chose étrange. Pourquoi, étant enfant, ai-je toujours la préoccupation d'imiter les grandes personnes? depuis que je suis devenu un homme, je n'ai cessé de désirer d'être semblable aux enfants. Que de fois ce désir de ne pas paraître un enfant dans nos rapports avec Seryoja n'a-t-il pas arrêté mes effusions, et ne m'a-t-il pas contraint à l'hypocrisie? Je n'osais non seulement l'embrasser, ce que par moments je désirais vivement, mais même le prendre par la main et lui dire la joie de le voir. Mais même si je ne l'appelais que Sergueï et non Seryoja. Toute sensibilité était une marque d'enfantillage. Et quiconque s'y laissait aller se faisait considérer comme n'étant encore qu'un gamin. N'ayant point encore passé par les rudes épreuves qui donnent aux hommes de la réserve et de la froideur dans leurs relations, nous perdions inconsidérément les douces joies des attachements profonds, par le désir étrange d'imiter les grands. Je courus jusqu'à l'antichambre, à la rencontre des Ivines. Après les compliments d'usage, je me précipitai chez la babouchka, à qui j'annonçai leur arrivée avec tel air qu'il semblait que cela dût mettre le comble au bonheur de notre aïeul. Puis, sans quitter Seryoja des yeux, je le suivis au salon. Pendant que la babouchka le trouvait très grandi et attachait sur lui ses yeux perçants, j'éprouvais cette sensation de frayeur mélangée d'espoir qui doit étreindre un artiste attendant le jugement d'un maître sur son œuvre. Le jeune gouverneur des Ivines, Herr Frost, après en avoir demandé la permission à la babouchka, nous suivit au jardin. Là, il s'assit sur un banc peint en vert, s'étendit commodément et, de l'air d'un homme content de lui, alluma un cigare. Herr Frost était un Allemand, mais un Allemand d'un tout autre genre que notre bon Karl Ivanovitch. D'abord, il parlait correctement le russe. Il parlait également le français, mais avec un très mauvais accent. Il passait généralement, surtout auprès des dames, pour être très savant. Ses moustaches rousses, la grosse épingle en rubis qui attachait une cravate de satin noir dont les bouts étaient cachés sous ses bretelles, son pantalon bleu ciel assoupié faisait valoir son air de suffisance et ses jambes extraordinairement musculeuses. On voyait qu'il appréciait par-dessus tout cette dernière qualité. Il se considérait comme irrésistible auprès du sexe faible. Et c'est sans doute pour cela qu'il s'étudiait toujours à mettre ses jambes en évidence. Qu'il fût debout ou qu'il fût assis, il ne cessait d'agiter ses mollets. Le jardin était très gai. Le jeu des brigands allait on ne peut mieux. Un événement faillit tout déranger. Seryoja était le brigand. En poursuivant deux voyageurs, il fit un faux pas et, de tout son élan, donna du genou contre un arbre d'une telle force que je pensais le voir éclater en morceaux. Je faisais le gendarme. Bien que mon devoir fût de le happer au collet, je courais vivement à lui et lui demandai affectueusement s'il ne s'était pas fait mal. Seryoja se fâcha, serra les poings, frappa du pied. Et d'une voix qui trahissait le mal qu'il s'était fait, il me cria « Mais qu'est-ce que donc? Il n'y a plus de jeu possible ?» Pourquoi ne me saisis-tu pas? Pourquoi ne me saisis-tu pas? Répéta-t-il à plusieurs reprises, en regardant de travers Volodia et l'aîné des Ivines qui faisait les voyageurs. Tout à coup, il fit un bond et se mit à les poursuivre à travers les allées avec de grands éclats de rire. Dire à quel point je fus enthousiasmé par cette action héroïque est impossible à décrire. Malgré la vive douleur qu'il ressentait, non seulement il ne pleurait pas, mais même il ne le laissait pas voir qu'il souffrait, et continuait le jeu comme si rien ne lui fût arrivé. Bientôt, Ilinchka Krap se joignit à notre compagnie. Avant le dîner, nous montâmes dans notre chambre. Là, Serioja eut une nouvelle occasion de m'étonner par son courage et par sa fermeté de caractère. Ilinchka Grap était le fils d'un étranger pauvre qui avait vécu jadis chez mon grand-père, dont il devint l'obligé. Il considérait comme un devoir sacré d'envoyer son fils chez nous le plus souvent possible. S'il supposait que les connaissances ainsi procurées à son fils devaient lui procurer honneur et plaisir, il se trompait, car non seulement nous n'étions pas les amis d'Ilijna Grap, mais encore nous ne nous apercevions de sa présence que pour faire de lui un objet de moquerie. Ilinchka avait 13 ans. Il était maigre, long, pâle. Sa tête ressemblait à celle d'un oiseau et était empreinte d'un air de soumission bonasse. Il était très pauvrement vêtu, mais toujours si bien pommadé que nous affirmions voir fondre la pommade au soleil et couler de ses cheveux sur sa nuque. Quand je me le rappelle maintenant, son souvenir est celui d'un garçon doux, bon et serviable. Mais alors, il me paraissait un être absolument méprisable, qui ne méritait pas qu'on le plaignît, ni même qu'on pensât à lui. Une fois, dans notre chambre, nous nous livrâmes à divers exercices de gymnastique, essayant de nous surpasser les uns les autres. Ilinchka, un sourire d'étonnement admiratif aux lèvres, nous regardait. Lorsqu'on lui proposa de nous imiter, il refusa, en disant qu'il n'était pas assez fort. Serioja était superbe. Il avait ôté sa veste, son visage et ses yeux étaient enflammés. Il riait sans cesse et inventait toujours de nouveaux tours. Il sautait par-dessus 3 chaises placées l'une contre l'autre, faisait la roue à travers la chambre et l'arbre droit, en s'appuyant sur le hexix de Tatitchev, puis une foule de choses extrêmement risible. Après cet assaut, il resta rêveur, clignota des yeux, et soudain s'approchant d'Ilinchka, il dit « Essayez donc de faire cela. Je vous assure que ce n'est pas difficile. » Grap, en s'apercevant que l'attention de tous les enfants était fixée sur lui, avait rougi. Il répondit d'une voix imperceptible qu'il ne pouvait pas.
« Mais c'est ennuyeux à la fin. Il ne veut rien nous montrer de ce qu'il sait. Serait-ce une fille ? Il faut absolument qu'il se mette la tête en bas. » Et Serioja le saisit par la main. « Absolument, absolument !» nous écriâmes-nous tous ensemble, en faisant cercle autour d'Ilijenka. Celui-ci, visiblement effrayé, pâlit. Nous le saisîmes et nous le traînâmes vers les lexiques. « Oh, laissez-moi J'essaierai moi-même. Vous déchirez ma veste !» criait notre victime. Mais ses cris désespérés nous stimulaient davantage. Nous mourions de rire. Sa veste verte craquait à toutes les coutures. Volodia et Ivine l'aîné le renversèrent et lui posèrent la tête sur les lexiques. Serioja et moi, nous saisîmes les jambes maigres du pauvre garçon, qu'il agitait dans tous les sens, lui retroussâmes le pantalon jusqu'aux genoux et, avec des éclats de rire, nous le dressâmes en arbre droit. Le plus jeune des Ivines maintenait l'équilibre du corps. À un moment, le silence se fit, de telle manière que nous entendions le souffle haletant du malheureux Grap. Je n'étais plus du tout convaincue que le jeu auquel nous nous livrions fût si amusant que cela. « Très bien, à présent tu es un gaillard, » dit Serioja, en lui donnant une tape. Ilijenka restait silencieux et, tâchant de se débarrasser de ses persécuteurs, agitait toujours les jambes. Dans un de ses mouvements désespérés, il frappa de son talon l'œil de Serioja d'une telle force que celui-ci lâcha aussitôt les jambes de Grap, porta la main à son œil d'où coulaient des larmes et frappa de toutes ses forces Ilijenka. N'étant plus retenu, ce dernier tomba inerte à terre et ne put que dire, à travers ses larmes, « Pourquoi me martyrisez-vous » L'état lamentable du pauvre Ilijenka, dont le village bouleversé était plein de larmes, ses cheveux hérissés, son pantalon retroussé qui laissait voir des tiges de bottes non cirées, tout cela nous frappa. Nous gardions tous le silence et nous sourions avec une sorte de malaise. Serioja revint le premier à lui. « Ah, quel baba ! Pleurnicheur ! » dit-il en le touchant doucement du pied. « On ne peut pas plaisanter avec lui. Allons, cessez donc. Levez-vous. » « Je t'ai dit que tu es un méchant garçon, » dit Lijenka avec colère. Et, en se retournant, il se mit à pleurer à chaudes larmes. « Ah, tu me donnes des coups de talon et tu m'injuries encore !» s'écria Serioja en saisissant dans ses mains un dictionnaire et en le brandissant au-dessus de la tête du malheureux qui ne se défendait, ne songeait même pas à se défendre et se contentait de protéger son visage de ses mains. « Tiens, tiens !» Laissons-le, puisqu'il n'entend pas la plaisanterie. « Descendons !» ajouta Serioja, en grimaçant un rire forcé. Je regardais, plein de compassion, le pauvre Grappe, qui, toujours étendu et le visage caché dans le dictionnaire, pleurait avec une telle abondance qu'il semblait prêt à succomber aux convulsions dont tout son corps était agité. « Oh, Sergueï, fis-je, pourquoi l'as-tu frappé ainsi ?» En voilà une affaire. Je n'ai pas pleuré, moi, quand je me suis meurtri la jambe, presque jusqu'à l'os. Cela est vrai, pensais-je. Ilijenka n'est qu'un pleurnicheur, tandis que Serioja, lui, est un gaillard. Ah, quel gaillard! Je ne songeais pas qu'Ilijenka ne pleurait point tant de la douleur physique que du chagrin qu'il devait ressentir en voyant 5 gamins que peut-être il aimait se réunir pour le haïr et le tourmenter sans aucune raison. Je ne puis vraiment m'expliquer à présent les raisons de l'acte de cruauté auquel je m'étais associée. Comment ne m'étais-je pas approchée de lui? Ne l'avais-je pas défendu et consolé? Où étaient donc mes sentiments de compassion qui, tant de fois, m'avaient fait verser des larmes à la vue d'un jeune oiseau tombé de son nid, ou d'un petit chien qu'on jetait par-dessus un mur, ou d'une poule qu'on allait tuer pour faire la soupe. Ces beaux sentiments étaient-ils donc étouffés par mon amitié pour Serioja et par le désir de paraître à ses yeux pour un gaillard comme lui ? Cette amitié et ce désir n'étaient donc guère élevés, puisqu'ils ont laissé la seule tache sombre qui soit sur les pages de mes souvenirs d'enfance.